Chapitre 34. Marie sans femme. Il y a de cela 16 ans, j'étais alors le rejeton de l'illustre famille des Lapinsonnières. Mon oncle avait une charge à la cour, il était officier du Gobelet. On me fit venir de son château, situé près de Châlons, et j'entrai dans l'une des compagnies du guet à pied. Si vous m'aviez vu dans ce temps-là, avec mon grand feutre et mes éperons devant le palais Mazarin, je puis dire que tout le temps que j'avais le pied à l'étrier, Paris était bien tranquille. De notre côté, c'était pour moi un métier accommodant. On peut s'enrôler et vieillir dans ce corps sans craindre les blessures. On y peut pousser sa pointe en dormant le jour au lieu de la nuit. Sauf quelques larrons et quelques galants que nous arrêtions pour retenir les premiers et relâcher les seconds, c'était une douce vie. L'ambition de mon oncle fut la cause de ma perte. Il me fit passer, par forme d'avancement, dans la compagnie des gardes de la prévôté de l'hôtel. Là, tout aussitôt, on me donna un cheval. Mais quelle infinité d'ordres ! Tantôt, nous devions enlever un partisan, tantôt un ennemi du cardinal, d'autres fois un Italien suspect. En un mot, au bout de 8 jours, nous étions sur les dents, ma bête et moi. Sur ces entrefaites, monsieur l'assesseur de ma province arriva à Paris, amenant avec lui sa plus jeune nièce. C'était un modèle de décence et de beauté. J'en devins féru et bientôt je fis ma demande. Le nom d'Hercule de la Pinsonnière parut plaire à ma future et, comme je vous l'ai dit, madame la comtesse, nous nous mariâmes le 13 février de cette année-là dans l'église des Blancs-Manteaux. Il fallait voir quelle foule. Ma compagnie était là, en grand uniforme, chacun me glissait son petit mot à l'oreille. Ils m'enviaient tous. Ma femme était si jolie. Par un contretemps fâcheux, nous nous trouvions commandés pour le soir à Saint-Germain-en-Laye, où devait venir la reine-mère. Je ne me séparais qu'avec des larmes de celle que je nommais enfin Madame de la Pinsonnière. Jamais, je crois, je n'avais tant maudit le service de Sa Majesté. « Au diable la reine-mère » murmurai-je, « qu'avait-elle besoin de venir à Saint-Germain avec son escadron de filles d'honneur le jour de mes fiançailles ?» Mon capitaine me trouva ce soir-là si défait qu'il m'exempta de la ronde habituelle dans les jardins. Je passai une nuit affreuse. Mais que devins-je, bon Dieu, madame la comtesse, quand le lendemain, au premier roulement de la diane, le capitaine, s'approchant de moi d'un air solennel, me remit une dépêche. « Vous voilà lancé, ajouta-t-il, c'est à votre père ou à votre oncle que vous devez sans doute un pareil honneur. Il faut que vous partiez à l'instant même avec 3 hommes. » Un coup de foudre m'eut alors moins étourdi. J'ouvris le papier, le capitaine disait vrai. C'était un ordre d'arrestation que venait d'apporter un garde du cardinal. « Et contre qui ?» Contre un homme, madame la comtesse, plus difficile 100 fois à arrêter que tout un escadron de chevaux légers, un traître, un scélérat, dont l'âme noire ne m'était pas encore dévoilée pourtant, comme elle me le fut depuis. Figurez-vous, en un mot, Satan en personne. Il avait l'avance sur moi. Seulement, je ne pouvais savoir par quelle porte de Paris il avait fui. Je n'eus pas même le temps d'embrasser madame de la Pinsonnière, il me fallait courir nuit et jour à bride abattue. Pendant cette course infatigable par le vent et par la pluie, je songeais, hélas, à la nuit de noces que j'eusse pu passer si doucement sans le service du roi, et je le maudissais de tout mon cœur, quand mon cheval et moi nous roulâmes tout d'un coup dans un ravin, au fond duquel je perdis bientôt connaissance. On me transporta à la ville voisine où j'eus la fièvre, le délire. Je voyais devant moi un fantôme affreux qui me raillait. Ce fantôme était celui de mon prisonnier. Il avait pris tout juste une route opposée à celle que je poursuivais. On me l'indiqua, mais je n'étais plus de force à recommencer sa chasse. Pour comble de malheur, un médecin ignorant, comme il n'y en a que trop, jugeant à propos de me saigner, me traita si bien que je faillis aller dans l'autre monde. Pendant ce temps, mon beau-père avait écrit à ma femme de quitter Paris et de venir le rejoindre à Lyon, où un procès venait de lui être suscité. J'allais la suivre moi-même, quand tout d'un coup, je reçus l'ordre de rejoindre incontinent ma compagnie, où l'on ne manqua pas de me gronder bien fort de ma maladresse. Je ne soupçonnais guère, madame la comtesse, ce qu'elle allait me coûter. Non seulement on me refusa le plus mince congé, mais le capitaine, qui ne m'aimait pas, me fit 1000 passe-droits. Bref, après 7 mois passés, je m'en fus trouvé mon oncle et je lui déclarai que s'il ne m'était pas permis de revoir ma femme, je déserterais au premier jour. « Vous étiez donc amoureux ?»« À en perdre la tête. » D'abord, comme vous pouvez le voir, je n'avais jamais été mariée avec ma femme. Quand je la revis, car à la sollicitation de ce cher parent, il fallait bien qu'on m'accordât mon congé. Madame la comtesse, quel changement! Marianne, elle s'appelait Marianne, était alors si défaite que j'eus peine à la reconnaître. Elle habitait alors une maison écartée dans un faubourg de la ville. Je ne trouvais auprès d'elle qu'une garde-malade. « Pardonnez-moi, monsieur, s'écria-t-elle dès qu'elle m'eut entrevue. Pardonnez-moi. Vous pardonnez, repris-je. Quelle est donc votre faute ? » Pour toute réponse, elle me montra un berceau. « Là, murmura-t-elle, là, regardez, vous êtes père. » J'avoue que je sentis alors un nuage passer sur mes yeux. La garde-malade venait de soulever entre ses bras une petite créature qui me parut la plus jolie fille du monde. « Vous comprenez aisément, madame la comtesse, les tortures que j'éprouvais. Heureusement, nous nous trouvions seuls. Je contins ma rage et, m'approchant du lit de Marianne, je lui demandai ce que signifiait cette comédie. « Je ne puis croire, ajoutai-je, que madame de la Pinsonnière... » L'aspect de Marianne suffit pour m'arrêter. Elle était déjà livide. Cet enfant, reprit-elle d'une voix mourante, est le fruit d'une séduction à laquelle tout autre eût cédé. Je fuyais Paris, j'allais rejoindre mon oncle à Lyon, je voyageais seul, lorsque la première hôtellerie que je rencontrais à Châlons, un gentilhomme tremblant, poursuivi par des archers, est venu se réfugier dans la chambre que j'occupais. On marchait sur ses pas, on allait le saisir, il était perdu. Mais un mot de moi, un seul, pouvait le sauver. Ce mot qu'il implorait de ma pitié, je le prononçai, je dis que j'étais sa femme. « Et le nom de cet homme, Baïf ?» demanda Choisy d'une voix pleine d'angoisse. « Son nom ? Eh bien, madame la comtesse, c'était celui de l'homme que le cardinal me chargeait lui-même d'arrêter 8 mois avant. C'était l'abbé de Choisy. » Le Baïf achevait à peine ces mots, lorsque la pendule de la pièce où il se trouvait sonna minuit. « Minuit ! » s'écria Choisy avec un accent désespéré et comme s'il fût sorti d'un rêve. Et, laissant le baïf, il se précipita vers la porte du cabinet et s'échappa comme un fou. Monsieur de la Pinsonnière, stupéfait, entendit tirer sur lui les verrous de cette porte.